Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, et après, apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Indonésie et l'Iran discutent de l'accord tarifaire provincial. Le président indonésien discute de développement du café Nusantara avec les activistes du café. Le tourisme contribue à la deuxième plus grande déficit. L'Agence nationale de gestion des catastrophes au BNPB soutient la recherche sur les catastrophes. Minangkabau Travel Mart, l'activité de promotion du tourisme de Sumatra-Ouest. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. Afin d'augmenter l'exportation des produits nationaux potentiels, l'Indonésie a discuté de l'accord tarifaire provincial ou PTA avec l'Iran à Jakarta du 28 au 30 septembre 2017. L'accord tarifaire provincial est la négociation entre les deux pays pour abaisser le tarif de certains produits commerciaux. Dans une interview avec La Voix de l'Indonésie dimanche, le directeur du commerce bilatéral du ministère du Commerce, Nimade Ayu Martini, a déclaré que le quatrième cycle de discussion a été négocié sur le texte de l'accord de PTA des deux pays, mais pas encore précis sur les produits échangés.
Nah, putaran ini itu kita bahas mengenai teksnya dulu. Kita kan harus punya kayak apa istilahnya?
Eh bien, ce tour nous avons discuté du texte, nous devons avoir le traité. Donc, nous devons discuter cet accord. Quelle est la question? Nous sommes d'accord pour diminuer ces produits. Et ensuite, la façon, le mécanisme. Et après, nous entrons à l'annexe. L'annexe est la pièce jointe. La pièce jointe ne contient que le nom de produit à échanger. Nous n'avons pas encore échangé. Nous attendons de l'Iran. L'Indonésie est prête, mais l'Iran ne sont pas encore prêts. Ils disent qu'ils ont besoin d'un mois. Après un mois, nous échangerons et ensuite, nous négocions. Nimade Ayu Martini, qui est également président de l'équipe de négociation indonésien-l'Iran, a expliqué que le quatrième cycle de négociation sur l'accord tarifaire provincial a également discuté les règles d'origine ou l'accord sur l'origine de marchandises afin d'assurer que les produits échangés provenaient de l'Indonésie et de l'Iran. Le cinquième cycle de discussion de PTA axé sur la liste des produits qui sont échangés aura lieu en novembre ou décembre 2017 et il est prévu que la PTA Indonésie-Iran puisse être terminée cette année. Le président Joko Widodo a rencontré avec un certain nombre d'activistes de l'industrie du café Nusantara et des jeunes leaders créatifs au palais présidentiel Bogor à Java Occidental dimanche. Cette réunion pour commémorer la journée mondiale du café, le 1er octobre. Dans son discours, le président espère que les agriculteurs et les activistes du café ne priorisent pas seulement le processus d'agriculture du café, mais aussi les mesures après la plantation du café qui offrira les avantages aux activistes du café s'il est fait avec de bons calculs.
Perlu juga saya ingatkan kepada kita semua.
Je dois également rappeler à tous que nous ne devrions pas simplement rester coincés avec sa ferme dans sa culture. Et c'est important, mais je pense que le plus important est beaucoup de profit si on peut voir le processus commercial jusqu'à ce que le café soit servi vraiment sur l'acheteur ou consommateur. Parce que le plus grand avantage est là, par conséquent, le prix du café des agriculteurs sera élevé si le processus commercial peut maîtriser vraiment. Le président Joko Widodo a encouragé les activistes du café Nusantara à soutenir mutuellement les efforts de développement de ce café. Selon le président, la collaboration entre divers activistes facilitera les efforts de développement du café, non seulement parmi les Indonésiens, mais aussi sur le marché international. À cette occasion, les activistes du café indonésien ont transmis des choses liées au développement de l'industrie du café dans ce pays. Ils ont transmis également les obstacles qui sont souvent rencontrés. Cet événement a été assisté par plusieurs fonctionnaires de l'État, des producteurs de café, des entrepreneurs de détail, des fabricants de machines à café et des amateurs de café. L'assistant adjoint de développement des ressources humaines du tourisme du ministère du Tourisme, M. Wisnu Bawa Tarunajaya, a déclaré que le secteur du tourisme était le deuxième grand contributeur de devises en Indonésie après le secteur du pétrole et du gaz. Wisnu, dans son discours à la formation de base des ressources humaines à l'Institut de l'éducation, des enseignants et pédagogiques ou équipe Budi Utomo Malang Japaes a déclaré que cette année, le tourisme était le deuxième contributeur à l'acquisition de devises. Il espère que l'année prochaine, il placera le premier rang et pour réaliser cet espoir, il faut s'engager à explorer et préserver la nature. Cependant, ce qui est plus important est le secteur des ressources humaines du tourisme. Le secteur du tourisme est aussi un secteur important parce qu'il a un effet multiplicateur en agissant comme leader secteur. C'est-à-dire lorsque le tourisme se développera, d'autres secteurs augmenteront. Selon lui, dans le futur, le secteur du tourisme deviendra un domaine promoteur dans ce pays avec la jeune génération en tant que conducteur, ainsi que le fer de lance. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du Centre des données et d'information de la relation publique de l'Agence nationale de gestion de catastrophes, ou BNPB, M. Sutopo Purwonugroho, a donné l'appréciation s'il existe des instituts de recherche et des universités qui mènent des recherches sur les catastrophes. Selon lui, l'une des gestions de catastrophes utilise le principe de la science et de la technologie. Dans un dialogue conjoint avec Radio République Indonésia lundi, il a déclaré que la recherche était importante et BNPB a besoin d'un soutien à la recherche des institutions et universités. Et jusqu'à présent, BNPB n'a pas d'unité spéciale du Centre de la formation et du développement de catastrophes. BNPB a également des difficultés à faire des recherches et des problèmes en cas de catastrophe. Le conseil régional représentatif de l'Association des entrepreneurs du tourisme indonésien de Sumatra Ouest tiendra un événement le 3e Minangkabau Travel Mart. Cette activité vise à promouvoir les destinations touristiques de Sumatra Ouest afin d'avoir une forte valeur de vente à l'échelle nationale et internationale et aussi d'établir des relations entre les hommes d'affaires du tourisme indonésien. Le président du comité de Minangkabau Travel Mart, M. Syafril, a déclaré dimanche à Bukit Tinggi que cette activité pourrait accroître les visites touristiques dans cette province. Le chef du bureau de tourisme de jeunesse et de sport de Bukit Tinggi, M. Erwin Umar, a dit que le gouvernement de la ville de Bukit Tinggi apprécie les activités de Minangkabau Travel Mart qui se tient durant du 3 au 6 octobre 2017. Il souhaite que les entrepreneurs de l'agence de voyage d'Indonésie, Brunei et la Malaisie puissent faire Sumatra West une principale destination touristique étant promo. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffuse depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La journée du pouvoir sacré de Pancasila » ou « La journée de kesaktian Pancasila ». Comme il y a de nombreuses années, le peuple indonésien commémore la journée de kesaktian Pancasila ou pouvoir sacré de Pancasila tous les 1er octobre. Il est célébré après l'assassinat de 6 généraux et un capitaine le 30 septembre 1965, qui était connu sous le nom G30SPKI par les éléments que le gouvernement décrit comme une tentative de coup d'État. Le problème à cause de G30 a été atténué par les autorités militaires indonésiennes. Le gouvernement de nouvel ordre sous le président Suharto a ensuite fixé le 1er octobre comme la journée de kesaktian Pancasila. L'incident de 30 septembre 1965 est encore en débat dans le milieu académique sur qui sont faits et quel est le motif. Mais les autorités militaires à ce moment-là ont dit que l'incident était un effort du Parti communiste indonésien ou PKI pour changer l'idéologie de l'État de Pancasila devient l'idéologie communiste. Lors de la cérémonie de la journée de kesaktian Pancasila qui a lieu au Monument Pancasila Sakti, complexe Lubang Buaya, Jakarta X, dimanche matin, le président Joko Widodo a révélé 4 points qui signifient la journée de kesaktian Pancasila. Tout d'abord, le président Joko Widodo a dit que l'assassiné de 6 généraux et un capitaine de 30 septembre 1965 était l'événement sombre dans l'histoire de l'Indonésie et ne pas laisser cela se produire. Deuxième moment, le président a recommandé de se tenir à Pancasila et de maintenir l'unité nationale. Troisième, le président a souligné que le gouvernement était très clair sur la mise en œuvre de Pancasila et impasse l'idéologie de communiste d'entrée en Indonésie. Quatrième, le président invite tous les composants de la nation et ordonne à l'armée et la police ainsi que des organisations gouvernementales de travailler ensemble pour construire une nation, rendre les gens calmes, paisibles et unis pour faire face à la concurrence mondiale. Le message présenté par le président Joko Widodo est très approprié au milieu des conditions actuelles en Indonésie. La menace de la division et la question de la montée du communisme qui est reparti dans la communauté récemment doivent être abordées attentivement. Le peuple indonésien doit rester vigilant. Pancasila, qui est l'idéologie et la base de l'État de l'Indonésie, devait être à la direction de la vie de la nation indonésienne. Le meurtre de 6 généraux et un capitaine dans l'incident G30SPKI, une sombre histoire de la nation indonésienne. Et cela ne devrait pas se produire. Comme l'a dit le président Joko Widodo à la cérémonie du jour de kesaktian Pancasila, la nation indonésienne doit continuer à promouvoir l'unité nationale dans l'intérêt de l'unité et du progrès du pays. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 octobre 1988, la mort de Sultan Hamengkubuwono IX, le roi du Sultanat de Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono est l'un des sultanats qui avait dirigé le Sultanat de Yogyakarta pour la période de 1940 jusqu'à 1988 et le premier gouverneur de Yogyakarta après l'indépendance de l'Indonésie. Il a servi comme le deuxième vice-président de l'Indonésie de 1940 1973 jusqu'à 1978. Il est également connu comme le père du scoutisme d'Indonésie. Il est mort à Washington DC le 2 octobre 1988 à l'âge de 76 à cause de maladie. Le 2 octobre 2009, batik est désigné comme patrimoine culturel d'Indonésie par l'UNESCO. Batik est l'héritage ancestral de l'Indonésie et jusqu'à présent continue à être développé. Au niveau international, le batik a été introduit par le président Suharto. Il a porté le batik à la Conférence des Nations Unies. L'UNESCO a reconnu batik en tant que patrimoine culturel de l'humanité en provenance de l'Indonésie. Cette reconnaissance est donnée par l'UNESCO pour voir les différents efforts qui sont faits par l'Indonésie, notamment en raison d'une évaluation contre la diversité des motifs de batik avec dessein philosophique. En outre, le gouvernement et le peuple indonésien sont également évalués après diverses mesures concrètes pour protéger et préserver ce patrimoine culturel. La détermination de batik par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial ainsi que de compléter la mise en place de 7 autres patrimoines mondiaux appartenant de l'Indonésie tels que Komodo, des forêts tropicales, des sites archéologiques de Sangiran, le temple Borobudur, le temple Prambanan, Wayang et Keris. Le 2 octobre, la Journée internationale de la non-violence. La Journée mondiale de la non-violence est commémorée tous les 2 octobre lors de l'anniversaire de Mahatma Gandhi. La fête s'appelle Gandhi Jayanti Anandi. En janvier 2004, le lauréat du prix Nobel de l'Iran, Shirin Ebadi, a proposé la commémoration de la Journée mondiale de non-violence d'un professeur indi à Paris qui a enseigné aux étudiants internationaux au Forum social mondial à Bombay. Le 15 juin 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a déterminé le 2 octobre en tant que la Journée internationale de non-violence. La résolution qui est faite par l'Assemblée générale des Nations unies demande à tous les États membres à commémorer le 2 octobre en bon moyen et diffuser des messages non-violents, notamment par la sensibilisation du public et de l'éducation. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonesia, Service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Salutak, voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie et les Fidji signent un accord sur la coopération de défense. Le gouvernement indonésien et les Fidji ont signé un accord de coopération de la défense. Cela a été fait par le ministre indonésien de la défense, Ria Mizat Riakudu, et son homologue de Fidji, Ratu Inoko Kubuabola, au ministère de la défense à Jakarta récemment. Le ministre Ria Mizat Riakudu a déclaré vendredi que cette coopération marquait la poursuite des relations de défense entre les deux pays plus stratégiques. Il a déclaré que la portée de la coopération comprend entre autres les échanges de visites entre les organismes de défense, le dialogue et les consultations bilatérales régulières.
Adapun kerjasama pertahanan yang tertuang dalam dokumen ini mencakup
La portée de la coopération de défense se reflétant dans ce document couvre le premier, l'essence de la visite entre les organismes de défense et les forces armées. Le deuxième, le dialogue de consultation bilatérale régulière sur la défense et les militaires stratégiques qui deviennent l'intérêt commun. Le troisième, le renforcement des capacités dans les secteurs de la défense et de l'armée des parties. Entre autres, au travers de séminaires, d'ateliers, de programmes de formation et d'éducation. Le quatrième, les essences de renseignement militaire et l'amélioration de la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Entre autres, le transfert de technologies, la recherche conjointe, la production et le marketing commun, ainsi que la garantie de la dernière qualité mutuelle d'autres domaines accordés conjointement. Ria Mizet Riakudu a ajouté qu'il existe plusieurs raisons pour la coopération dans les domaines de défense des deux pays. L'un d'entre eux est lié à la cohérence de Fidji qui ne soutient pas l'indépendance du Papouasie. Le ministre de la Défense, Ria Mizet Riakudu, a affirmé que l'Indonésie considère que les Fidji ont leur important dans la région du Pacifique du Sud qui a constamment démontré son soutien à la souveraineté de la République d'Indonésie. En outre, la coopération positive entre l'Indonésie et les Fidji peut être vue de la sagesse fidjienne qui soutient toujours l'unité du territoire de la République d'Indonésie et ne soutient pas les efforts visant à l'indépendance et à la séparation de la Papouasie du territoire indonésien. Cet engagement fait de Fidji un partenaire stratégique de la République d'Indonésie dans la région du Pacifique. Ria Mizet a déclaré avec cette coopération, sa partie encourage à placer immédiatement un attaché de défense au Fidji. Il s'agit de faciliter la coordination de la coopération en matière de défense entre les deux pays. Pendant ce temps, le ministre de la Défense et de la Sécurité de Fidji, Ratu Inoko Kubuabola, a déclaré que la coopération était historique pour les Fidji. Selon elle, les Fidji considèrent l'Indonésie comme un pays amical, en particulier dans le secteur de la sécurité dans la région d'Asie-Pacifique. Elle a invité le ministre de la Défense de l'Indonésie, Ria Mizet Riakudu, à visiter les Fidji pour un dialogue bilatéral dans le domaine de la coopération en matière de défense entre les deux pays. Ratu Inoko Kubuabola a expliqué que les Fidji soutenaient constamment la souveraineté de l'Indonésie comme stimulé dans la Charte des Nations Unies, dans laquelle chaque pays doit respecter la souveraineté d'autres pays. Conformément à la Charte des Nations Unies, à savoir l'intégrité de la souveraineté d'un pays, sa partie respecte la souveraineté de l'Indonésie en Papouasie occidentale. Par conséquent, les Fidji, comme l'un des États membres de l'ONU, encouragent également d'autres pays à respecter l'Indonésie en tant que propriétaire de la souveraineté sur la Papouasie. Serviteur, c'est la mise au point pour ce soir.
Afin d'augmenter l'exportation des produits nationaux potentiels, l'Indonésie a discuté de l'accord tarifaire préférentiel ou PTA avec l'Iran à Jakarta du 28 au 30 septembre 2017. L'accord tarifaire préférentiel est la négociation entre les deux pays pour abaisser le tarif de certains produits commerciaux. Dans une interview avec La Voix de l'Indonésie dimanche, le directeur du commerce bilatéral du ministère du Commerce, Nimade Ayu Martini, a déclaré que le quatrième cycle de discussion a été négocié sur le texte de l'accord de PTA des deux pays, mais pas encore précis sur les produits échangés.
Nah, putaran ini itu kita bahas mengenai teksnya dulu. Kita kan harus punya kayak apa istilahnya?
Eh bien, ce tour nous avons discuté du texte, nous devons avoir le traité. Donc, nous devons discuter cet accord. Quelle est la question? Nous sommes d'accord pour diminuer ces produits et ensuite la façon, le mécanisme. Et après, nous entrons à l'annexe. L'annexe est la pièce jointe. La pièce jointe ne contient que le nom de produit à échanger. Nous n'avons pas encore échangé. Nous attendons de l'Iran. L'Indonésie est prête, mais l'Iran ne sont pas encore prêts. Ils disent qu'ils ont besoin d'un mois. Après un mois, nous échangerons et ensuite nous négocions. Nimade Ayu Martini, qui est également président de l'équipe de négociation indonésienne-l'Iran, a expliqué que le quatrième cycle de négociations sur l'accord tarifaire provincial a également discuté les règles d'origine ou l'accord sur l'origine de marchandises afin d'assurer que les produits échangés provenaient de l'Indonésie et de l'Iran. Le cinquième cycle de discussion de PTA axé sur la liste des produits qui sont échangés aura lieu en novembre ou décembre 2017 et il est prévu que la PTA Indonésie et Iran puisse être terminée cette année. Le président Joko Widodo a rencontré avec un certain nombre d'activistes de l'industrie du café Nusantara et des jeunes leaders créatifs au palais présidentiel Bogor à Java Occidental dimanche. Cette réunion pour commémorer la journée mondiale du café le 1er octobre. Dans son discours, le président espère que les agriculteurs et les activistes du café ne priorisent pas seulement le processus d'agriculture du café, mais aussi les mesures après la plantation du café qui offrira les avantages aux activistes du café s'il est fait avec de bons calculs. Je dois également rappeler à tous que nous ne devrions pas simplement rester coincés avec sa ferme dans sa culture, et c'est important, mais je pense que le plus important est beaucoup de profit si on peut voir le processus commercial jusqu'à ce que le café soit servi vraiment sur l'acheteur ou consommateur. Parce que le plus grand avantage est là, par conséquent, le prix du café des agriculteurs sera élevé si le processus commercial peut maîtriser vraiment. Le président Joko Widodo a encouragé les activistes du café Nusantara à soutenir mutuellement les efforts de développement de ce café. Selon le président, la collaboration entre divers activistes facilitera les efforts de développement du café, non seulement parmi les Indonésiens, mais aussi sur le marché international. À cette occasion, les activistes du café indonésien ont transmis des choses liées au développement de l'industrie du café dans ce pays. Ils ont transmis également les obstacles qu'ils sont souvent rencontrés. Cet événement a été assisté par plusieurs fonctionnaires de l'État, des producteurs de café, des entrepreneurs de détail, des fabricants de machines à café et des amateurs de café. L'assistant adjoint de développement des ressources humaines du tourisme du ministère du tourisme, M. Wisnu Bawa Tarunajaya, a déclaré que le secteur du tourisme était le deuxième grand contributeur de devises en Indonésie après le secteur du pétrole et du gaz. Wisnu, dans son discours à la formation de base des ressources humaines à l'Institut de l'éducation des enseignants et pédagogiques où l'équipe Budi Utama Malang Java East a déclaré que cette année, le tourisme était le deuxième contributeur à l'acquisition de devises. Il espère que l'année prochaine, il placera le premier rang et pour réaliser cet espoir, il faut s'engager à explorer et préserver la nature. Cependant, ce qui est plus important est le secteur des ressources humaines du tourisme. Le secteur du tourisme est aussi un secteur important parce qu'il a un effet multiplicateur en agissant comme leader secteur. C'est-à-dire lorsque le tourisme se développera, d'autres secteurs augmenteront. Selon lui, dans le futur, le secteur du tourisme deviendra un domaine promoteur dans ce pays avec la jeune génération en tant que conducteur, ainsi que le fer de lance. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du Centre des données et d'information de la relation publique de l'Agence nationale de gestion de catastrophes, ou BNPB, M. Sutopo Purwonugroho, a donné l'appréciation s'il existe des instituts de recherche et des universités qui mènent des recherches sur les catastrophes. Selon lui, l'une des gestions de catastrophes utilise le principe de la science et de la technologie. Dans un dialogue conjoint avec Radio République Indonésia lundi, il a déclaré que la recherche était importante et BNPB a besoin d'un soutien à la recherche des institutions et universités. Et jusqu'à présent, BNPB n'a pas d'unité spéciale du centre de la formation et du développement de catastrophes. BNPB a également des difficultés à faire des recherches et des problèmes en cas de catastrophe. Le conseil régional représentatif de l'Association des entrepreneurs du tourisme indonésien de Sumatra Ouest tiendra un événement, le 3e Minangkabau Travel Mart. Cette activité vise à promouvoir les destinations touristiques de Sumatra Ouest afin d'avoir une forte valeur de vente à l'échelle nationale et internationale, et aussi d'établir des relations entre les hommes d'affaires du tourisme indonésien. Le président du comité de Minangkabau Travel Mart, M. Syafril, a déclaré dimanche à Bukit Tinggi que cette activité pourrait accroître les visites touristiques dans cette province. Le chef du bureau de tourisme de jeunesse et de sport de Bukit Tinggi, M. Erwin Umar, a dit que le gouvernement de la ville de Bukit Tinggi apprécie les activités de Minangkabau Travel Mart qui se tiendront du 3 au 6 octobre 2017. Il souhaite que les entrepreneurs de l'agence de voyage d'Indonésie, Brunei et la Malaisie puissent faire Sumatra Ouest une principale destination touristique étant promo. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, aujourd'hui nous vous invitons à visiter un village touristique à Banten. Restez avec nous à La Voix d'Indonésie par l'onde courte et vous pouvez également écouter notre émission via www.voe.cm.id. Sawarna est un village dans le district de Bayah, province de Banten. Ce village est proclamé comme village touristique en raison de ses diverses attractions touristiques telles que la plage, la rivière, la forêt, la grotte et l'agrotourisme qui sont bondés de touristes nationaux et étrangers. Parmi ces nombreuses attractions touristiques, les plages sont les plus visitées par les touristes. La beauté de ces plages et leurs grosses vagues sont la principale raison pour les visiteurs d'aimer les plages du village de Sawarna. Il y a beaucoup de belles plages à Sawarna. Parmi les plages dans cette région, celles de Ciantir et de Tanjung Layar sont les plus visitées par les touristes. La plage Ciantir, ou connue sous le nom de plage de Sawarna, est une plage recouverte de sable blanc. Avec son sable dense et sec, sa longueur atteint 3 km. Vous pouvez y pratiquer de nombreuses activités telles que le bain de soleil, le football et le volleyball de plage. Ces grands rouleaux sont l'attraction principale pour les touristes qui veulent surfer. Habituellement, les surfeurs locaux et étrangers y viennent d'avril à septembre. La plage Tanjung Layar possède de grosses rochers qui ressemblent à des voiles entourées d'un groupe de coraux. Les eaux de cette plage sont claires, de sorte que vous pouvez clairement voir les récifs coralliens, les herbières et une grande variété de poissons colorés. Pour les amoureux des grottes, le village de Sawarna est le bon choix. parce qu'il a de nombreuses grottes. Par conséquent, ce village est surnommé le village au milieu de grottes. La grotte de la Laye et la grotte Laouk sont les deux grottes les plus populaires et les plus visitées par les touristes. La grotte La Laye est une grotte calcaire qui possède des stalagmites et des stalactites. Le fond de la grotte accueille une rivière souterraine avec 10 à 15 cm d'épaisseur de boue. La grotte de La Laye a une longueur d'environ 100 mètres. Elle est appelée la grotte de La Laye parce qu'au plafond, il y a beaucoup de chauves-souris appelées La Laye en langue sundanaise. Dans la grotte de Laouk, vous serez impressionné par les vastes couloirs de cette grotte. Pour profiter du charme des stalagmites et des stalactites, vous devrez traverser la rivière dans la grotte. La grotte La Laye est l'une des plus belles grottes d'Indonésie. Elle est aussi située dans le village de Sawarna, Banten, la province de Java West. Pour y aller, il y a des chemins alternatifs qui peuvent être utilisés. Pour la première route, passez à travers Jakarta, Tangerang, Rangkas Bitung, Malimping, Bayah et le village de Sawarna. Cela prend environ 7 à 8 heures. La deuxième alternative est à travers Jakarta, le Handratu, Bayah et le village de Sawarna. Pour profiter de la nature potentielle de la grotte Jomblang, vous devrez avoir effectué une préparation mentale et physique, parce que vous devrez marcher à pied environ 2 km et traverser un pont suspendu qui a commencé à pourrir. Vous passerez aussi un petit cours d'eau qui contient une boue très glissante. Pour y entrer, vous devrez payer 2000 rupiah par personne. On peut aussi louer une lampe frontale ou une lampe de poche pour explorer la grotte. La location vous sera facturée 5000 rupiah. Le village Sawarna peut être atteint à partir de Jakarta en voiture en 7 à 8 heures pour une distance de plus de 270 km. Pour entrer dans ce village touristique, vous devrez payer un ticket d'entrée 5000 rupiah. Si vous voulez dormir à Sawarna, vous pouvez rester dans des maisons chez l'habitant, dans des chalets, des villas ou encore camper à la périphérie de la place de Sawarna, de la mer de Sawarna. Comme village touristique, Sawarna est équipé avec un guide, un belvédère, des stands de nourriture ainsi que par le centre et souvenirs. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est barbecue bersama ou le barbecue ensemble. Comme toujours, je vais vous présenter les mots de vocabulaire et quelques expressions utilisées en relation avec notre sujet aujourd'hui. Barbecue, barbecue, en français, barbecue, bersama, bersama, en français, ensemble, akhir pekan, akhir pekan, en français weekend. Rencana, rencana, en français plan. Kenapa, kenapa, en français pourquoi. Di rumah, en français à la maison. Memanggang, memanggang, en français griller. Murah, murah, en français bon marché. Enak, enak, en français délicieux ou délicieuse. Pasar, pasar, en français marché. Membeli, membeli, en français acheter. Daging sapi, en français viande bovine. Daging ayam, en français viande de poulet. Bakso ikan, en français boulette de poisson. Saucisse, saucisse, en français saucisse. Sayuran, sayuran, en français légumes. Serviteur, voici le dialogue entre Nita A et Anna B au bureau. A. Anna, akhir pekan ini kamu punya rencana apa? Je répète. Anna, akhir pekan ini kamu punya rencana apa? En français. Anna, ce week-end, vous avez un plan? B. Tidak ada. Tidak ada. En français. Rien. B. Kenapa? Kenapa? En français, pourquoi? A. Bagaimana kalau kita barbeque di rumahku? Bagaimana kalau kita barbeque di rumahku? En français, que diriez-vous dans barbeque dans ma maison? B. Kamu mau memanggang apa? Kamu mau memanggang apa? En français, que voulez-vous griller? A. Apa saja asalkan murah dan enak. Apa saja asalkan murah dan enak. En français, tout à condition que délicieux et bon marché. B. Ayo kita ke pasar dulu. Ayo kita ke pasar dulu. En français, allons-nous au marché d'abord. B. Kita membeli daging sapi, daging ayam, bakso ikan, sosis, dan sayuran. Je répète, kita membeli daging sapi, daging ayam, bakso ikan, sosis, dan sayuran. En français, nous achetons de la viande bovine, de la viande de poulet, des boulettes de poisson, des saucisses et des légumes. A. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. A. Sampai jumpa akhir pekan. Sampai jumpa akhir pekan. En français, rendez-vous le week-end. Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'Indonésie pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique musicale. Et pour cette édition, je présenterai des chansons de Keroncong chantées par, entre autres, Bram Titale ou Bram Aceh. Le chanteur qui est né à Banda Aceh en 1913, il est connu comme le père de Keroncong indonésien. Il a commencé sa carrière après avoir remporté le premier prix de Keroncong Jakarta Raya en 1955. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée Mawar Skuntum, chantée par Bram Titale. Vous écoutez la voix de l'Indonésie à Jakarta dans la rubrique musicale. Chers amis, c'était la première chanson de Kroncong intitulée Mawar Sekuntum, créée par Sapari, chantée par Bram Aceh ou Bram Titali. En 1955, il a gagné la première place dans le concours de Kroncong et aussi gagnant dans le concours de Kroncong classique de Jabodetabek en 1980. Il a paru plusieurs fois dans la station de télévision nationale ou TVRI, notamment dans le programme de musique. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Keroncong, intitulé Rindu Lukisan, chanté par M. Rifani.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Rayu kalana di kantor di tingkah gematifa serenade dalam terang bulan. Kaluhuran bangsa Indonesia sejak zaman Majapahit sini jaya Nusantara mega negara jaya dan luhur bahagia ku rasakan di dalam jiwaku selalu di mana ku
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons de Kroncong et ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.